Monsieur le conseiller d'État, monsieur le président de la Croix-Rouge genevoise, madame la représentante de la Croix-Rouge du Trentino, chère Maria Grazia, monsieur le représentant du musée de la Croix-Rouge à Luconvalde, cher Rainer, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de pouvoir honorer le démarrage, le lancement des actes du colloque Louis Appia. Enfin, après de nombreuses années, il vient de sortir. Et c'est à l'occasion de cette publication bilingue que nous avons cette petite manifestation. Et nous sommes très heureux, notamment, de compter sur la participation des autorités, tant du canton que de la Croix-Rouge genevoise. Nous sommes nombreux à parler, donc nous allons tous être relativement brefs. J'aimerais juste rappeler que la société Louis Appia a été créée pour commémorer le bicentenaire de la naissance de Louis Appia. Donc Louis, c'est 1818-1898. Et nous avons, à cette occasion-là, réuni des représentants de la famille, des historiens, quelques personnalités aussi du monde humanitaire et d'autres personnes du monde des églises évangéliques. Et nous avons organisé une foule d'activités. Par exemple, des colloques. Il y en a eu un à Genève en 2018. Les actes sont publiés aujourd'hui. Un autre à Torre Pellice en 19, à ici même en 2020. Nous avons organisé des expositions, de 20 panneaux, soit en français, soit en anglais. Une version allemande a été montrée à Hanau. Une version italienne a été montrée à Torre Pellice. Cette exposition a été montrée pendant une année et demie au siège de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, pendant un jour au Musée international de la Croix-Rouge et pendant zéro jour au siège du CICR. Et nous avons là un véritable problème d'enracinement de l'institution principale. Cette exposition a aussi été montrée au siège de la Croix-Rouge à Paris et aussi à la Croix-Rouge du Val-de-Marne. Nous avons inauguré des bustes. Il y en a un qui est à Hanau, je crois juste devant le bureau du maire. Et puis, il y en a un autre au musée de la Croix-Rouge à Luckenwalde. Et il y en a un troisième au siège de la Fédération internationale. Et puis, si vous avez la nuque souple, vous pourrez en voir un qui est juste là dans une alvéole très, très discrète selon la mode calviniste. Nous avons réalisé un certain nombre de publications. Ici, ce sont des petites publications ponctuelles sur Louis Appia et Berne. On a découvert des liens absolument extraordinaires. Et ça, c'est grâce à notre ami Frédéric, il est où? Il est ici. Bondala, historien de la Croix-Rouge suisse, c'est lui qui a trouvé ses pépites et qu'on a pu les éditer en français et en allemand. On a aussi trouvé les liens entre Louis Appia et Jussy. Louis Appia était une sorte de réfugié politique en 1949 et il était accepté dans la commune de Jussy. Et puis, nous travaillons maintenant sur de nouveaux projets dont je vous parlerai ultérieurement. Nous faisons des voyages d'études à Hanau, à Torre Pellice, dans le Trentino, à Brescia, tout récemment, et puis aussi dans le Val-de-Marne. Nous avons une Croix-Rouge locale très dynamique, très hospitalière. Vous savez que nous adorons les plaques commémoratives et nous avons quand même réussi à en mettre une à Jussy, une autre à la rue Farel, et Maria Grazia Baccolo, qui parlera dans un instant, vous montrera une sorte de volée de plaques en Italie. Et nous avons un tas de projets, notamment une biographie d'Appia, notamment un voyage d'études au Schleswig, donc dans cette une lointaine Allemagne, Danemark, où Appia a eu une mission extrêmement importante. Nous y retournerons à Brescia, et puis nous rêvons de pouvoir investiguer des destinations beaucoup plus lointaines qui sont tout à fait à l'image du voyageur, on pourrait dire impénitent, qui était Louis Appia. C'est Clara Barton aux États-Unis. Il y a eu une relation tout à fait particulière entre ces deux frères d'armes, comme ils s'appelaient. L'Égypte, puisqu'il y est allé deux fois, et je viens de découvrir dans la correspondance intime qu'il aurait aimé s'y établir. Et peut-être qu'avec Mohamed Ben Ahmed, qui est notre membre correspondant pour le monde arabe, on pourra y aller, on rêve. Et puis Francfort, où il a passé les 30 premières années de sa vie, et il y a extrêmement peu d'éléments connus à Francfort. Donc, vous le voyez, nous avons d'abord dans le projet, aujourd'hui c'est une étape, et je tiens à souligner deux éléments. C'est que tout d'abord, nous n'avons pu réussir que grâce au soutien de la famille, et notamment Olivier Pictet, Bertrand Pictet, Louis Appia. Où est Louis ? Louis qui a amené un portrait, le fameux portrait de Louis Appia, le portrait original, et puis Valérie Lathion, historienne, qui travaille aussi avec nous et nous aide beaucoup, et puis nous avons des membres correspondants. C'est Rainer pour l'Allemagne, c'est Maria Grazia pour l'Italie, c'est Hervé Pilet pour la région parisienne, c'est Mohamed Ben Ahmed pour le monde arabe. Et c'est avec cette équipe que nous pouvons avancer, continuer d'explorer, de découvrir de nouveaux aspects et nous permettre de vous présenter Louis Appia comme le véritable précurseur, comme le cofondateur déterminant et comme le diffuseur magnifique de la Croix-Rouge internationale, et nous tentons de lui rendre la place qu'il mérite au panthéon de l'humanitaire. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Monsieur Francesco Garibaldi, dont nous avons fait la connaissance en Italie en juin dernier, qui va vous parler quelques minutes de son illustre aïeul qui a beaucoup apprécié Louis Appia.
Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je viens d'Italie et je dois partir très brièvement. Je n'ai pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails, mais monsieur Durand m'a demandé de parler un peu de l'héritier Garibaldi, je peux entrer en quelques détails, mais pas beaucoup pour le moment. Et ce que m'a beaucoup frappé, c'est une sommeillance très proche avec les fondateurs de la Croix-Rouge, parce que les deux monsieur Appia et monsieur Dunon, ils étaient des évangéliques, des humanitaires. Garibaldi a adopté, il est tombé amoureux de l'humanité, qui était un concept de 1800, et il était à cause de un rapport qu'il a établi avec le mouvement Saint-Simonien. Henri Saint-Simonien, il était un philosophe français à l'époque, avant Garibaldi, a continué beaucoup. Pendant un voyage à Constantinople, il a expulsé de la France Napoléon III, avant, et là, il a été très influencé sur son devoir de dédier sa vie à le bien-être des oppressés. L'autre influence dans sa vie de jeunesse, c'était le maire. Il avait connu la liberté à travers le mer, les voyages de marins, d'enfants, et il a connu le guide des bateaux, comment commander les navires. Ça, c'est la troisième influence, c'était Mazzini qui était républicain, qui avait une grande influence au niveau européen pour l'unité d'Italie et de la République. Au début, Garibaldi, il était républicain, il a combattu en Sud-Amérique, trois républiques en Sud-Amérique, la République romaine en 1948, mais toutes les faillites en Italie de Mazzini et toutes les insurrections pour Austria et les républiques en Italie ont falli, et il a épousé le chaos de l'unité d'Italie avec le règne de Piémont, le règne de Sardaigne. Le règne de Sardaigne, c'était le règne plus libéral à l'époque. Ils avaient une constitution avec Cavour, ils avaient un grand rapport diplomatique avec tous les pouvoirs internationaux. C'était le seul espérance de unir l'Italie. On a, avec un collaborateur à Brescia, Gianluigi Pallotti, des études approfondies de Louis Appia, qui a dédié, avec lui, il était un professionnel chirurgien militaire, et pendant les guerres de 59, il était à Brescia. Il a participé dans les hôpitaux civils de guérir toutes les blessés pendant la guerre de Solferino, San Martino. Mais Garibaldi n'était pas à Solferino, San Martino. Il a été à la guise des chasseurs des Alpes, dans les montagnes dans le nord de Lombardie. Et là, en même temps, il y avait beaucoup de blessés des chasseurs des Alpes. Et on les voit dans les archives. Louis Appia, qui était dédié dans les trois hôpitaux de Brescia, a aidé à soigner les blessés. Donc c'est une étude qui a fait Pallotti, et il va sortir avec deux livres bientôt, et je crois que vous serez invité à participer. On sait aussi que Louis Appia avait un rapport avec Giuseppe Garibaldi, parce qu'il était présent avec la Croix-Rouge pour la première fois en Italie pour l'expédition à Bezzecca en 66. 66, c'était le tentative de unir à l'Italie le Trentino. Trentino, à Bezzecca, il y avait la grande bataille, et comme il y avait un armistice entre la Prusse et l'Austrie, l'Italie a décidé de se retirer. Donc, ils n'ont pas réussi à prendre le Trentino, et donc, grande
déception
de Garibaldi, il a dû renoncer au Trentino. Et là, la fameuse phrase obédisco, j'obéis, parce qu'il n'avait pas de choix comme militaire, obéir l'ordre du roi. Voilà. Donc, Louis Appia, il a connu Astolfo, Garibaldi, à cette époque. Et après, Louis Appia, il a porté 12 personnes pour le caravane,
pour une
ambulance. Oui. Et après, Garibaldi a écrit une lettre de remerciement qui est dans l'histoire. Donc, avec ça, je crois que je peux terminer. À votre tour.
Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Maria Grazia Baccolo, notre membre correspondante pour l'Italie. Elle est aussi lauréate du prix Henri Dunant Terrain 2019. Oui. C'est ça. Maria Grazia, toi la parole.
Et merci de l'invitation. Et après ce que M. Garibaldi a dit, je vais vous dire que Roger Durand m'avait demandé de prendre des contacts, c'était le 2017, avec les mairies de tous les endroits où Louis Appia a été. Et bien, donc, on a commencé par Solferino, parce que Louis Appia n'était pas présent pendant la bataille, mais il est venu à Solferino et San Martino après la bataille, donc c'était le début du mois de juillet 59, et il a pris des dessins, donc ça c'est l'épreuve qu'il a été là. Et après on a pris le contact avec la mairie de Lonato, où se trouve Madonna della Scoperta, qui est un lieu qui est au milieu du terrain de la bataille, entre Solferino et San Martino, pour faire des cérémonies et mettre des plaques, évidemment, pour avoir la mémoire de ça. Après, on a été à Bezzecca, évidemment, Bezzecca, Storo, Tiarno, à Pieve di Bono, parce que le dernier rencontre entre Appia et Garibaldi, ça a été à Pieve di Bono, c'est dans la même vallée. Et donc ça produit, ces rencontres ont produit des bonnes choses et très, très vite, parce que l'année après, on a pu mettre des plaques soit à Solferino, soit à Madonna della Scoperta, soit à Bezzecca, et on est encore en contact avec la commune de Ledro et la commune de Pieve di Bono pour avancer, pour faire encore des choses pour la mémoire de Appia. Et ça, c'était quelque chose de très bien et très étonnant pour la vitesse. Nous, on ne s'attendait pas. La réponse si vite de la commune. Après, c'est M. Garibaldi qui a parlé des recherches de M. Valotti qui a fait à Brescia, et ça c'est une chose tout nouvelle, parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas de documents de la présence de Appia à Brescia. On savait, mais on c'était pas avec la documentation. Et ça c'est vrai, on a eu la possibilité de faire un voyage à la fin de Solferino, de la période de Solferino, la fin du mois de juin dernier, et on a organisé une journée à Brescia et voir les trois endroits où Appia a été, que c'était l'église de San Giuseppe, la sacristie du Duomo Nuovo, qui était destinée à être une salle de chirurgie, et dans le centre-ville où il y avait l'hôpital civil qui a été détruit par des bombardements. Et après, la dernière activité que je suis en train de faire, c'est la traduction en italien des soit les rapports du Schleswig-Holstein en italien. Et maintenant, on va ajouter des lettres, des correspondants avec les journaux de Genève où Appia avait envoyé tous ses rapports après la bataille de Bezzecca. Donc, on va intégrer le rapport du Schleswig. Voilà, je pense avoir tout dit. Je pense de vous remercier de votre patience et de votre amitié. Merci.
Vous le voyez, les terres d'exploration sont riches, prometteurs et féconds, et grâce à nos contacts sur place, on peut avancer. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à M. Éric Neigevent, le président de la Croix-Rouge genevoise.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je m'associe aux salutations protocolaires et au nom du comité et de la direction générale de la Croix-Rouge genevoise, j'aimerais remercier M. Durand et les organisateurs d'avoir intégrer et convier la Croix-Rouge genevoise à ce bel événement. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire d'un grand homme, évidemment, c'est la raison de cette réunion aujourd'hui. Et c'est non seulement un hommage à sa mémoire, mais c'est également la preuve de la continuation de son œuvre par la richesse de ses projets et dans son engagement sans faille. La Croix-Rouge genevoise voit en lui un héritage en faisant vibrer ses actions. Dans les débuts de notre association et avec les premiers soins à domicile du canton, nous soignions à l'époque, je parle des années 1900, les bébés malades de diphtérie, les personnes souffrant d'alcoolisme, de grippe et de tuberculose. Les maladies de la fin du 19e siècle étaient nombreuses, souvent mortelles, notamment en raison de l'insuffisance de soins, des méconnaissances médicales, le manque d'hygiène, l'absence de traitement efficace pour toutes ces nombreuses conditions. On voit aujourd'hui encore l'engagement de Louis Appia se perpétuer, notamment au sein de la Croix-Rouge genevoise, récemment avec l'ouverture d'un cabinet de médecine dentaire pour les travailleurs et travailleuses pauvres, ceux qui sont un peu trop riches pour bénéficier de l'aide sociale, mais pas assez pour se permettre des soins qui ne sont pas pris en charge par leur assurance médicale. Donc la permanence de soins dentaires, le développement fulgurant du service Chaperon Rouge avec son aide pour les enfants, les visites à domicile, le service de garde pour les enfants ou les enfants de parents malades, ou en difficulté, notamment au sein de l'hôpital pédiatrique, avec des visites quotidiennes aux enfants de parents en situation sociale difficile, avec le lancement du service d'auxiliaire de vie qui intervient en urgence à domicile pour soulager les proches aidants épuisés notamment.
Et ce ne sont là que quelques exemples parmi la quarantaine de programmes essentiels que la Croix-Rouge sur Genevoise a mis sur pied et célèbre au quotidien. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Dr Louis Appia par son esprit de bienveillance qui résonne encore au quotidien à la Croix-Rouge. À Genève, berceau de la diplomatie et de l'humanitaire, l'idéal d'Appia a éclos. Il s'ancrait alors dans l'action et la solidarité. Nous honorons aujourd'hui non seulement le chirurgien humanitaire, cofondateur du CICR, comme tout le monde le sait, président de la Société médicale genevoise, mais aussi cofondateur de la Croix-Rouge genevoise. Et là, je la distingue parce que c'est très difficile, le public est souvent pas très au clair. Donc, distinguo qu'il y a entre le CICR, la Fédération, les Croix-Rouges nationales, les Croix-Rouges cantonales et notre Croix-Rouge genevoise locale. Et c'est l'objet de ma présidence, c'est de réintégrer la Croix-Rouge au sein de son territoire et permettre aux Genevois de mieux la connaître et de se l'approprier. La Croix-Rouge genevoise donc agit localement pour soulager les souffrances des Genevois et des Genevoises en difficulté, leur apporter l'aide là où l'État n'a pas les moyens d'apporter cette aide et là où l'aide fait défaut. Soit notamment avant la crise Covid, 32 000 bénéficiaient des services Croix-Rouge. Depuis la crise, c'est près de 50 000 personnes qui, chaque année, bénéficient de nos services. Louis Appia, genevois d'adoption, homme de conviction, d'engagement, profond humaniste, a implanté les graines de la prévoyance et du soin au cœur de notre vocation. En parcourant les pages de ce livre, que je l'ai parcouru, pas encore totalement lu, parce que j'ai eu le privilège de le recevoir en version PDF, mais j'aimerais juste voir la version papier en dur, on découvre non seulement un pionnier de l'humanitaire, mais aussi un citoyen genevois profondément engagé dans sa communauté. Louis Appia a porté le souci de l'autre dans ses moindres actes, éduquant sur l'hygiène, militant contre l'alcoolisme, s'illustrant comme médecin philanthrope. Il est édifiant de constater que l'écho de ces initiatives résonne encore et toujours dans notre action quotidienne au sein de la Croix-Rouge genevoise. Les près de 500 collaborateurs et 1500 bénévoles annuels de la Croix-Rouge sont les dignes héritières et héritiers de cet homme d'exception. Docteur Appia, dans sa modestie, aurait peut-être été surpris de l'empreinte indélébile qu'il a laissée également à Genève. Pourtant, chaque service rendu, chaque sourire offert, chaque main tendue par la Croix-Rouge genevoise est un fragment de son humanité. Alors, je tiens bien sûr à remercier chaleureusement les auteurs de cet ouvrage qui ont su capter l'essence d'un homme dont l'esprit demeure parmi nous et dont l'influence nous porte. Mais j'aimerais aussi dire à son descendant combien il peut être fier, c'est juste. Combien il peut être fier de son aïeul, qui, avec ses compagnons de l'époque, Dunan, Monnoir, Moignet, Dufour, ont eu la vision d'un monde de paix. Et nous devons, tous porter très haut ces valeurs et faire vivre les principes de la Croix-Rouge qui sont notamment humanité, indépendance et neutralité. Je vous remercie.
J'ai maintenant le plaisir et l'honneur de donner la parole à M. Pierre Baudet, conseiller d'État, chargé notamment du département de la santé, mais un ami de longue date qui nous a déjà soutenu de très nombreuses occasions lors d'autres manifestations, par exemple le lancement du livre pour les 150 ans du souvenir de Solferino et d'autres occasions. Pierre Baudet, à vous la parole.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, et surtout, chers amis, vous venez de l'indiquer, c'est d'abord par amitié que je vous rejoins ce matin, même si je représente aussi tout à fait officiellement le Conseil d'État de la République et Canton de Genève, mais par amitié et par admiration pour le travail que vous accomplissez, vous en particulier, mais toutes celles et ceux qui, autour de vous, ici au Centre Henri Dunant, à la faveur de l'action de la société Louis Appia, dont on va souligner aujourd'hui l'importance, qui vous engagez dans un travail de longue haleine, pour faire vivre ce souvenir si important pour notre communauté et pour montrer en quoi, et c'est mon premier propos aujourd'hui, en quoi ce souvenir est important pour l'avenir, pour le présent évidemment, mais pour l'avenir. Le président de la Croix-Rouge genevoise vient de rappeler à Victor et à travers Victor, enfin, les générations futures, l'importance de ces valeurs qui nous rassemblent et l'importance de les faire vivre. Parce que les valeurs, c'est bien beau, on peut les écrire au frontispice de nos monuments, mais il faut d'abord les pratiquer et surtout les perpétuer. Mon propos assez bref aujourd'hui sera de vous adresser à mon tour, au nom des autorités, un message de gratitude pour cette action, et en particulier pour l'expression du souvenir de l'action de Louis Appia, de son action déterminante, et on l'a entendu avec les différentes interventions, une action qui s'inscrit dans un 19e siècle très particulier, deux siècles en arrière maintenant. Louis Appiah traverse ce 19e siècle de 1818 à 1898 avec un brassage d'idées, de valeurs, des révolutions qui se succèdent, une Europe sans dessus-dessous, des conflits qui prennent une dimension inconnue jusque-là. Et ça et là, notamment grâce à Louis Appiah, grâce à ses co-religionnaires de 1863 qui fondent la Croix-Rouge, quelques éclairs d'humanité, les pionniers de l'humanitaire, pour reprendre le propos d'Éric Mégevan, s'inscrivent dans ce siècle comme des marqueurs, des jalons extrêmement importants qui, à la faveur d'un point de départ qui est Genève, mais on voit bien la mention des voyages l'illustre, qui rayonne même par-delà la Méditerranée, rendent absolument indispensable, inévitable, incontournable la question de la prise en charge en temps de guerre des belligérants, mais aussi des populations civiles. On ne se lassera pas de rappeler l'importance et le marqueur que représente dans cette deuxième partie du XIXe siècle cette action déterminée, un peu improbable parce qu'elle va à l'encontre des réflexions de l'époque qui portent avant tout la bagarre sur les champs de bataille sans considération forcément pour les populations civiles. Et de ce point de vue-là, l'action en particulier de Louis Appiah, ophtalmologue, dont on pourrait dire, si on voulait lui faire un clin d'œil, qu'il a eu une belle vision, mais surtout chirurgien ensuite, qui a beaucoup documenté les dégâts des armes à feu, notamment, si j'ai bien lu l'ouvrage, et d'autres pathologies spécifiques, à quel point il fallait pouvoir, à l'époque, accroître la connaissance de ces situations et la façon de les traiter. J'aimerais souligner, à travers ce point précis, l'importance pour la communauté genevoise déterminante de celui qui a été ensuite le président de cette société médicale, un peu le patron des médecins de l'époque, l'importance de la recherche, l'importance de la documentation, l'importance de la formation, qui était encore très embryonnaire. Souligner aussi l'apport déterminant de Louis Appiah, je le dis d'autant plus volontiers que comme nouveau et jeune ministre de la Santé, je m'intéresse évidemment à l'évolution au cours des dernières décennies, des derniers siècles de la santé dans mon canton, l'intervention et l'appréhension déterminante de Louis Appiah pour des questions de santé publique fondamentales, qui à l'époque, ça paraît curieux aujourd'hui et un peu incongru, qui à l'époque ne faisait pas vraiment débat, des questions relatives à l'hygiène publique de base. Je vois la mention dans le livre de l'importance de se laver les mains. Alors c'est vrai que depuis quelques années, à la faveur du Covid, on s'en est souvenu, mais il faut imaginer au milieu du 19e siècle des médecins qui insistent sur l'importance simplement de se laver les mains sans forcément que la population se rende compte des dégâts que peut représenter en termes de transmission de virus, de bactéries et autres, l'absence de ces règles minimum de prophylaxie. Je pense aussi, ça a été mentionné parce que c'est un fléau qui nous touche aussi aujourd'hui à la prise de conscience relative à l'alcoolisme, qui est au cœur d'interventions marquantes de Louis Appiah, mais également, et il faut le souligner, de son approche centrée sur les enfants, sur la prévention de maladies infantiles qui causaient des ravages, évidemment beaucoup moins aujourd'hui, c'est là qu'on peut constater quand même quelques progrès et la valeur de ces messages qui ont gagné en importance au cours des décennies qui ont suivi sur l'appréhension correcte, efficace, générale, à travers l'école notamment, de la santé infantile. Donc Louis Appiah, c'est une action déterminante dans le domaine de la médecine de guerre et son corollaire ensuite, la prise en charge avec la Croix-Rouge des effets collatéraux, mais aussi une action déterminante pour la santé publique en temps de paix, dirais-je, et auprès des populations civiles. Et c'est évidemment à ce titre-là aujourd'hui que le gouvernement que je représente lui adresse à titre posthume un immense message de gratitude d'avoir tracé cette voie extrêmement importante. Un pionnier de l'humanitaire, on l'a mentionné, en temps de guerre évidemment, mais aussi en temps de paix, et c'est là-dessus que je veux clore cette intervention de ma part. Souligner à quel point ça ressort dans le livre que j'ai pu aussi lire en format PDF, à quel point Appiah avait compris, autant voire davantage que ses quatre co-religionnaires, que c'est en temps de paix que les choses se préparent. Et que c'est en temps de paix que ces valeurs d'humanisme, ces valeurs généreuses qu'il a voulu diffuser, doivent pouvoir aussi se déployer en préparant les esprits, en veillant aussi, et c'est important de le dire dans les temps troublés que nous traversons, à faire en sorte que les gens se parlent, qu'ils échangent, qu'ils communiquent. Ils vivaient à une époque, le 19e siècle, où les moyens de communication n'étaient évidemment pas aussi développés qu'aujourd'hui, mais où la perception de l'importance de diffuser les messages n'en était que plus forte. Si nous pouvions ne retenir qu'un élément aujourd'hui, il y en a évidemment des dizaines d'autres de son action, c'est celui-ci que je retiendrai, l'importance, à travers notamment la Société genevoise d'utilité publique, la création de la Croix-Rouge qui en a résulté, l'importance de communiquer, de diffuser ces valeurs le plus largement possible, également en temps de paix. C'est déterminant, évidemment, une fois que les choses se gâtent. Merci encore au Centre Henri Dunant, merci à la Société Louis-Appiat. Longue vie aux idées de Louis-Appiat, à travers ses descendants, Victor et ses deux sœurs, qui sont quelque part, à travers les familles, parentes et alliées ici présentes, et à travers toute la Société genevoise que je représente aujourd'hui, et qui est très honoré d'avoir pu compter sur une personne aussi engagée et déterminante pour notre société que Louis Appiat. Je vous remercie de votre attention.
Alors, monsieur le conseiller d'État, je vous remets solennellement à vous l'avez dit, monsieur, et mes amants aussi, bien entendu. Un grand merci de ce soutien et de l'effort que le gouvernement genevois, par votre personne, consent maintenant pour accorder une importance aussi à la profondeur historique, à l'importance des racines. Un arbre ne peut pousser que s'il a des racines bien solides, et l'histoire, c'est les racines du présent. Donc nous sommes très encouragés avec cette nouvelle configuration, notamment faite, je vous en ai parlé, qui est plus centrée. Alors, je donne maintenant la parole à notre ami Rainer Schlosser, qui va parler de quelques éléments des relations avec l'Allemagne. Rainer, si tu veux bien.
Oui, mais monsieur le président des différentes organisations, mesdames, messieurs, et avant tout, mes amis, chers amis de Louis Appiat, je me réjouis que votre président, Roger Durand, m'a permis de vous adresser quelques paroles sur la commémoration de Louis Appiat en Allemagne. Si vous regardez la couverture du livre, vous voyez trois portraits de Louis Appiat, trois portraits, et bien que ce ne soit pas notre intention, on peut imaginer qu'il symbolise les trois civilisations dans lesquelles est enraciné Louis Appiat, la civilisation italienne, à cause de sa famille, la civilisation suisse dans la deuxième moitié de sa vie, et la civilisation allemande, c'est-à-dire dans laquelle il est né. Il a fait ses études, il a fait sa première profession à Francfort avant de s'installer à Genève. Et c'est avant tout cette origine allemande qui m'intéresse, comme membre de la Croix-Rouge allemande, loin d'être nationaliste, je veux souligner que Louis Appiat ne fait partie seulement de la civilisation suisse, mais aussi de la civilisation allemande, c'est-à-dire de la Croix-Rouge allemande. Et bien que même au sein de la Croix-Rouge allemande, Louis Appiat est peu connu. C'est avant tout Henri Dunant, la grande personne derrière laquelle se cachent tous les autres fondateurs, cofondateurs de la Croix-Rouge. Et donc je suis heureux que les initiatives de Roger Durand, des initiatives de la société Louis Appiat, de son équipe, ont initié tant de commémorations de Louis Appiat, même en Allemagne. Avant ces initiatives, il y avait bien sûr une rue à Hanau, où il est né. Il y avait un petit passage à Francfort, où il a vécu comme médecin, avant médecin de pauvres. Mais après ces initiatives ici à Genève, ont augmenté les commémorations même en Allemagne. particulièrement, moi, je parlerai de la commémoration de l'UAPIA à Lucumbal, dans mon musée de la Croix-Rouge. Nous possédons une copie de ce buste que Roger a mentionné. Dans la branche de ma Croix-Rouge, on vient de baptiser les salles d'union. Les salles de désunion, on en a trois, et la plus grande a été baptisée l'UAPIA. Mais le plus important, c'est ce volume que nous présentons ce matin. Et j'aimerais remercier Roger Durand en trois perspectives. C'est la première qu'il a fondée la société l'UAPIA avec son équipe. Qu'il a initié la conférence sur l'UAPIA en 2018 à Genève, et avant tout qu'il a consenti de présenter les actes, de publier les actes dans cette collection des Beiträge zur Kreuzgeschichte. C'est la collection où a été déjà publié le fameux récit de l'UAPIA sur les blessés au Schleswig. Et donc c'est le second volume qui s'occupe de l'UAPIA, et je suis presque sûr que ça sera un jalon dans la réception de l'UAPIA en Allemagne, mais non pas dans le monde germanophone, mais aussi dans le monde francophone. Et c'est tout pour cela que je vous remercie à toi, Roger. Merci.
Je donne maintenant la parole à Valérie Lathion, notre historienne, qui va vous parler.
Alors, avant de présenter l'ouvrage bilingue, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, qui nous réunit aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage au fondateur de la société l'UAPIA, parce que moi j'ai pris le train en route, je n'étais pas parmi les fondatrices, donc au fondateur de la société l'UAPIA, qui avait pris l'initiative du bicentenaire de la naissance de l'UAPIA en 2018 et du colloque scientifique à l'origine de ce volume. J'aimerais aussi remercier les généreux mécènes, institutions et fondations qui ont permis la réalisation de ce colloque et de ces actes. Donc avec mes collègues genevois du comité éditorial, donc Roger Durand et Olivier Pittet, nous avons eu la chance de travailler efficacement avec la maison d'édition munichoise AVM, dont le professeur Rainer Schlosser est membre du comité éditorial de la collection des contributions à l'histoire de la Croix-Rouge. Merci Rainer d'avoir proposé de publier les actes de cette collection en version bilingue. Merci surtout pour votre gros travail, l'énorme travail de traduction vers l'allemand, puisque c'est vous qui avez traduit tous les articles vers l'allemand de tous les textes en français. Et merci surtout, Rainer, pour votre efficacité, votre amabilité et surtout pour la finesse de votre jugement en toutes circonstances. Ça a été un véritable honneur et plaisir de travailler avec vous. Merci. Et nous avons de plus bénéficié du professionnalisme de Madame Simone Steger, collaboratrice éditoriale d'AVM. Bien qu'elle n'ait pas pu faire le voyage de Munich jusqu'à Genève, je la remercie et nous la remercions tous chaleureusement. Alors l'UAPIA, l'UAPIA, nous l'avons ici, l'un des deux experts médicaux du comité fondateur de la Croix-Rouge, l'un des deux experts médicaux avec Théodore Mounoir. Telle a été durant longtemps l'unique approche de ce personnage par l'historiographie. Seul son parcours et son engagement humanitaire au service des militaires blessés, que ce soit durant la guerre d'Italie en 1859, puis dans le cadre du CICR, ont été étudiés et mis en avant. La perspective du bicentenaire de sa naissance a offert la possibilité de reconsidérer plus largement son récit de vie et ses engagements. Cette ambition a été facilitée par plusieurs découvertes archivistiques. Roger Durand a déjà parlé de la correspondance entre l'UAPIA et Samuel Lehmann, mais surtout, donc nous avons, enfin, pas moi, je l'avoue, c'était Olivier et Roger, vous avez trouvé aux archives du CICR en coffre d'archives. Peut-être que Bertrand, tu y étais également ce jour-là. Excuse-moi d'avoir oublié. Donc Olivier, Bertrand, Roger, Louis, non ? Voilà. Voilà, donc les trois. Donc vous avez, une fois été aux archives du CICR, vous avez un peu questionné davantage l'archiviste et vous avez découvert en coffre rempli d'archives de l'UAPIA, dont le contenu n'avait jamais été répertorié, ni même, et donc pas catalogué. Et le contenu de ce coffre a été ensuite utilisé par plusieurs historiens de cet ouvrage et a nourri véritablement cet ouvrage. De plus, les nouvelles problématiques ont évidemment suscité de nouvelles recherches en archives, en plus évidemment de ce coffre. Deux principales axes de recherche sont rapidement apparus dans notre réflexion lorsque nous avons préparé le colloque. Quel a été le rôle de l'UAPIA dans l'élaboration d'une conscience humanitaire par le biais de la fondation et du développement de la Croix-Rouge? Pour répondre à cette question, il a fallu se pencher sur les fondements et les réseaux de sa motivation et de son engagement. Dans son engagement, on peut se poser la question quelle a été la part de son activité de médecin, de chirurgien de guerre, quelle a été la part de sa foi évangélique ardente? La question reste ouverte, il faut l'avouer. Dans le deuxième axe de recherche, nous avons désiré situer sa pratique médicale dans son temps. Mais en définitive, nous n'avons pas en deux parties, nous avons un livre, un ouvrage triparti. Alors l'ouvrage s'ouvre dans une première partie intitulée « Généalogie et jeunesse allemande » sur plusieurs études des réseaux de l'UAPIA. Olivier Pictet a étudié ces réseaux familiaux, que ce soit dans les vallées vaudoises, en Allemagne, en Suisse romande, tandis que le terreau de Hanau, sa ville de naissance, a été dessiné par un historien allemand, M. Erhard Buss. Puis Rainer Schlosser s'est penché sur les réseaux qu'APIA a noués durant ses années d'études à Francfort, à Genève également, à Bonn et à Heidelberg. Cette première partie démontre la faculté d'APIA à se mouvoir dans des cultures et des milieux différents, bien que deux constances prédominent, sa foi évangélique et son amour pour l'Allemagne. La seconde partie de l'ouvrage traite de ses engagements religieux, philanthropiques et humanitaires. J'ai moi-même étudié les réseaux évangéliques genevois dans lesquels il a évolué dès son arrivée à Genève. Que signifie être un chrétien évangélique à Genève au XIXe siècle? Et qu'est-ce que cela implique pour, en matière d'action philanthropique et humanitaire? Donc, pour l'UAPIA, la charité chrétienne réunit la religion, la philanthropie et l'humanitaire. Et il rejoint ainsi le large cercle des réformateurs socio-évangéliques qui, en Europe et aux États-Unis, ambitionnent de modifier en profondeur la société et se réunissent en congrès internationaux dans de nombreux domaines. Alors que ces évangéliques se frottent aux réformateurs sociaux, catholiques et laïcs, l'UAPIA pense son action philanthropique et humanitaire avant tout comme un acte de foi évangélique. Dans cette même partie, Roger Durand s'est penché sur le rôle de l'UAPIA dans les origines de la Croix-Rouge, tandis que M. François Bugnon, que je salue, a examiné sa première mission en tant que délégué du CICR dans la guerre du Schleswig. Puis, Patrick Bondala a pu éclairer dans Jour Nouveau le réseau suisse du CICR par le biais de cette fameuse correspondance entre l'UAPIA et Samuel Lehmann, qui est le médecin chef de l'armée suisse, délégué de la Suisse à la conférence internationale d'octobre 1863. Et dans la troisième partie, intitulée « Pratique médicale, publication et traces écrites », la pratique médicale de l'UAPIA en tant que chirurgien de guerre est contextualisée par M. Montandon. Puis, M. Mouton a étudié les publications médicales d'APIA avant que Mme Germont étudie les traces écrites que l'UAPIA a laissées dans la bibliothèque du CICR, par exemple des encarts dans des livres, des annotations, des dédicaces, qui démontrent encore, s'il le fallait, ses multiples engagements et y livre quelques traits de sa personnalité, voire de ses sentiments. Alors loin, je dois l'avouer, loin de proposer une agiographie de l'un des cinq fondateurs de la Croix-Rouge, cet ouvrage désire le présenter dans une globalité qui donne une part belle à la contextualisation de son parcours de vie. Cette approche permet autant de mieux comprendre le rôle de l'UAPIA dans la fondation de la Croix-Rouge, notamment les réseaux d'APIA dont la Croix-Rouge a pu bénéficier, et également donc, le rôle d'APIA dans l'institution durant 35 ans. Et cette perspective permet aussi de mettre en avant sa particularité par rapport à ses autres collègues. Il peine, il faut l'avouer, à appliquer une neutralité religieuse et une impartialité politique face aux belligérants. Mais finalement, en revisitant le parcours de vie de l'UAPIA, cet ouvrage montre surtout la normalité de l'UAPIA dans son siècle, c'est-à-dire sa normalité par rapport à ses contemporains. En effet, par ses nombreux engagements, il est un des multiples médecins et hygiénistes du XIXe siècle qui ont eu l'ambition de remédier aux maux de la société et de la réformer durablement. Je vous souhaite une bonne lecture, en français ou en allemand, pour les courageux, de cet ouvrage qui, je l'espère, suscitera de nouvelles réflexions et de nouvelles recherches historiques sur l'UAPIA et sur le XIXe siècle. Je vous remercie. Donc j'ai le plaisir d'introduire Olivier Pictet. Donc arrière, encore en arrière?
Non.
Arrière. J'avais pas répété, hein. Donc arrière, petit neveu de l'UAPIA. Donc il va nous parler plus amplement de la famille. Merci.
Alors on a parlé de la vie de l'UAPIA, mais évidemment sa vie, il faut aussi parler un peu de sa famille, parce qu'elle était très importante dans l'action de l'UAPIA. Alors, 5 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je vais me focaliser donc sur l'environnement familial, religieux, qui ont amené l'UAPIA à devenir l'un des fondateurs du CICR. Alors à Genève, on peut regretter le fait qu'il manque une rue Louis-Appia. Bon, mais il y a quand même une plaque sur la famille Appia, famille de pasteurs et d'artistes. Alors vous allez voir peut-être pourquoi. Alors Louis-Appia fait partie d'une famille qui vient des vallées vaudoises, du Piémont, comme on l'a déjà dit. Les Appia ont apparu dans ces vallées environ au XIVe siècle, et étaient à Torre Pellice et les environs. Alors, entre le XVIe et le XVIIe siècle, les vallées subissent la puissante et permanente pression de la réforme catholique et environ 2500 Vaudois émigrent à Genève. Et le peuple vaudois a failli disparaître à cette époque deux fois, une fois à cause de la peste et une autre fois à cause de la révocation de l'édit de Nantes. Malheureusement, la persécution des familles vaudoises a continué jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, quels sont les ascendants de Louis? Alors, Daniel Appia était capitaine des troupes vaudoises lorsqu'ils ont voulu rentrer au Piémont. C'est ce qu'on appelle la glorieuse rentrée. Et il meurt en prison parce qu'il s'est fait attraper. Son fils, Paul Appia, était pasteur, 40 ans, dans les vallées. Paul-Joseph Appia, l'arrière-grand-père de Louis, a été pasteur, il a fait sa théologie en Suisse, a été pasteur 20 ans aussi dans les vallées. Jean-Louis Appia, le grand-père de Louis, fait des études en Suisse de théologie, mais il devient orgé, mais abandonne sa famille. Je mentionne que le XVIIIe siècle a été caractérisé par une vraie dynastie de pasteurs Appia dans les vallées vaudoises. Par exemple, au synode de 1760, il y a eu 5 pasteurs Appia présents. Paul-Joseph Appia, père de Louis, fait un apprentissage aussi d'horlogerie à Sainte-Croix, puis il étudie la théologie à Genève. Et il devient pasteur de l'église réformée de Hanau. lors de la bataille de Hanau, où Napoléon a vaincu les armées austro-bavaroises, Paul ramasse et soigne les blessés de la bataille. Il épouse Caroline Dovolet, et il devient pasteur dans l'église réformée française de Francfort, où il meurt en 1849. Et Paul et Caroline, donc les parents de Louis, ont eu 6 enfants, dont Louis est le premier garçon. Alors parlons de la famille proche de Louis. Louis donc est né à Hanau et il se dirige pour faire des études de médecine, dont à Heidelberg, ça a déjà été dit, et à 25 ans, il décroche son doctorat en médecine. Ensuite, il retourne à Francfort et soigne les plus démunis. Donc il a créé il est cofondateur d'un dispensaire d'ophtalmologie à Francfort. En 1948, il soigne durant de longs mois les blessés de la Révolution, d'abord à Paris et ensuite à Francfort. Et en 1949, après la mort de son père, Louis quitte Francfort et se fixe à Genève, où il y avait déjà 2 de ses sœurs. Alors pourquoi revient-il à Genève? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'échec de la Révolution, en 1948 en Allemagne, puis il y a eu le décès de son père. Sa mère souhaitait revenir à Genève auprès de ses filles et Genève a été un lieu de formation privilégié des pasteurs de la famille Appien. Louis a eu 4 sœurs. Pauline a épousé le pasteur Louis Valette, qui fut pasteur à Naples à Paris. Marie a épousé le pasteur Jacques Valette de Genève, qui fut pasteur et chapelain à l'hôpital. Et la troisième, Cécile, a épousé le peintre Gabriel Boutillier de Beaumont, peintre bien connu à Genève, et 2 de ses enfants ont aussi été des artistes talentueux. Finalement, Louise fut diaconesse. Et le frère de Louis, dont on a parlé, Georges, Appia, a fait des études de théologie à Genève. Alors lui, il est parti très rapidement en Italie, où il était pasteur à Pignerol, Palerme, Naples, et ensuite à Paris. Il épouse Hélène Sturge et ils auront 8 enfants. Et 2 deviennent pasteurs, 2 autres sont artistes. Et dans les enfants et petits-enfants, il y a encore des pasteurs et des artistes. Les ascendants, les parents. Alors on a vu que les Appiens sont venus des vallées vaudoises du Piémont. Comme bien des familles vaudoises, on peut dire qu'ils ont été généralement des chrétiens évangéliques et des personnes très croyantes. Si l'on considère les familles des grands-parents de Louis et de sa femme, nous voyons qu'à part une seule exception, toutes ces familles sont des familles protestantes arrivées à Genève après la Réforme. Alors, 2 familles viennent des vallées vaudoises du Piémont, 4 viennent du milieu de la France et 1 vient du royaume de Naples. Il est donc intéressant de constater que ces familles émigrées se sont bien intégrées à Genève, en Suisse, mais sont restées très proches les unes des autres. Alors bien sûr, avec ces familles, Louis Appia a des racines chrétiennes évangéliques très fortes. Dans sa famille, il est entouré de nombreux pasteurs, et il est profondément croyant. Mais Louis Appia est également influencé par l'environnement religieux de son époque à Genève, et il est entouré par de nombreuses personnes qui sont actives dans le mouvement du réveil. Là, on peut lire tout l'article de Valérie Lathieu. Par exemple, son beau-père Henri Lasserre est un pilier de l'Église évangélique. Son beau-frère Louis Valette est également pasteur actif dans les œuvres d'évangélisation, d'entraide et de secours. Il s'occupe d'abord de l'Église évangélique de Naples, puis va à Paris où il œuvre pour des œuvres et les diaconesses du Reuilly. À Paris, il est suivi par son frère Georges Appia. Et n'oublions pas Henri Dunant, qui est aussi un chrétien évangélique. Oui, Louis Appia a toujours été entouré de chrétiens évangéliques, très actifs, et cela a fortement contribué son fort enracinement spirituel et philanthropique. Et ces expériences le marquent fortement. Il se passionne aussi pour la médecine militaire. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un médecin de guerre? Nous avons vu que Paul Appia, son père, Swain est blessé dans la bataille de Hanau et il en a parlé à son fils. En 1948, Louis suit son exemple en s'occupant des blessés des barricades de la Révolution de Paris, puis de Francfort. L'oncle de sa femme, Charles de Velay, est officier dans les armées de Napoléon pendant près de 10 ans. Il fait la campagne de Russie. Et après ses aventures, il s'installe à Yverdon comme chirurgien et il en parle à Louis Appia. En tout cas, Louis Appia est un passionné de chirurgie militaire et pendant 35 ans, il siège au CICR où il est la référence en médecine de guerre. En conclusion, c'est dans cet environnement de pasteur et d'artiste et de médecin que Louis Appia est devenu un précurseur de la naissance et le développement d'une conscience humanitaire qui a mené à la fondation de la Croix-Rouge internationale. Merci de votre attention.